Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
Il faudra aller probablement vers un confinement adapté, ou est-ce confinement plus dur? C'est une décision qui est éminemment politique.
C'est le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy qui le disait encore hier soir, il faut reconfiner, notamment à cause de la circulation des variants. La décision devrait être prise mercredi lors du conseil de défense. C'est aussi mercredi que les premiers navigateurs du Vendée Globe toucheront enfin terre au Sable d'Olonne après une course palpitante. Au dernier pointage, Charlie Dalin est passé en tête. Dans ce journal, nous ouvrirons le dossier de la réparabilité. Autrement dit, ce nouvel indice, désormais obligatoire pour certains appareils ménagers ou électroniques.
Cet indice de réparabilité est une nouvelle information qui va être donnée aux consommateurs sous la forme d'une note de 1 à 10. Meilleure est la note, plus le produit qu'il va acheter sera réparable.
Toujours beaucoup d'incertitudes sur les raisons de l'agression violente de Youri, un ado de 15 ans. À Paris, il pourrait s'agir d'un contentieux entre bandes rivales. Et puis le football, Lyon n'a fait qu'une bouchée de Saint-Étienne hier soir 5-0 et remonte à la 3e place du classement.
Juste après ce journal 2020, année de bascule historique pour les investissements dans la transition énergétique, l'éclairage éco de Nicolas Barré. Le regard international, Vincent Hervouette, puis Virginie Fulpin qui défend le niveau, la qualité, le spectacle en Ligue 1 ce matin, l'édito sport. Avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Quel suspense! Non, on ne parle pas encore du reconfinement, hein. On va y revenir dans un instant, mais de cette bagarre finale à couper le souffle dans le Vendée Globe, la plus serrée de l'histoire de la course à la voile. Bonjour Corinne Boulou.
Bonjour, bonjour à tous.
Ça y est, on arrive à l'issue de cette bataille en pleine mer. Les premiers sont attendus donc mercredi au Sable d'Olonne. Selon le tout dernier pointage de ce matin, Charlie Dalin a repris la tête de la flotte, mais ça va être serré jusqu'au bout.
Oh oui, c'est un final intense où chaque manœuvre vaut de l'or. Ils sont 5 à viser le podium et le Graal. En ce moment, la bataille de l'Atlantique se situe au-dessus de l'archipel des Açores. Charlie Dalin, maître dans l'art de la régate, a repris les commandes sur son bord le plus favorable. Mais à un peu plus de 48 heures de l'arrivée, la marge est infime. Louis Burton, positionné dans son nord-ouest, est à une 60aine de kilomètres. Boris Herrmann, 3e, est à environ 130 kilomètres. L'Allemand est sans doute le plus dangereux pour le classement final. Avec Yannick Bestaven, 5e à environ 430 km. Ces deux navigateurs ont une bonification de temps pour avoir modifié leur route afin de participer le 30 novembre dernier au sauvetage de Kevin Escoffier, un naufragé devenu bien involontairement en ce moment l'arbitre de cette fin de course passionnante. L'Allemand Boris Herrmann pourra en effet retrancher 6 heures à son temps de course une fois la ligne franchie et Yannick Bestaven 10h15. Autant vous dire que le premier à franchir la ligne en temps réel ne sera pas forcément déclaré vainqueur. Charlie Dalin et Louis Burton doivent donc tenter de creuser le plus d'écart possible dans ces dernières heures où le suspense reste entier.
Merci Corinne Boulou et ne manquez pas à 7h40 le tête-à-tête Europe Matin enregistré avec Charlie Dalin, le leader du Vendée Globe ce matin sur Europe 1. Nous appellerons également le 5e, mais vous avez compris que tout peut se jouer dans les jours qui viennent. Yannick Bestaven.
Et on va revenir sur la terre ferme où la grande question tient en un seul mot, reconfinement. Mais avec un point d'interrogation.
Alors le gouvernement continue à marteler que la décision n'est pas encore prise. Elle sera tranchée lors du Conseil de défense mercredi. Mais ce troisième confinement semble presque inévitable, surtout quand on entend le président du Conseil scientifique.
Romain Oquet, bonjour.
Bonjour.
Hier soir sur BFM TV, Jean-François Delfraissy a été très clair sur la nécessité de resserrer la vis.
Oui, et il y a même urgence, alerte Jean-François Delfraissy. En 3 semaines, les variants plus contagieux ont changé la donne. La souche britannique concerne jusqu'à 9% des cas dans certaines régions, comme l'Île-de-France. C'est 4 fois plus qu'au début du mois.
C'est l'équivalent d'une deuxième pandémie. On sera très vite probablement à 12, 14, 15% du variant anglais dans les semaines qui viennent. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi vous n'arrêtez pas finalement l'extension du variant anglais? On ne peut strictement rien faire. Donc, il faudra aller probablement vers un confinement.
Confiné pour prendre le temps de vacciner, le professeur est optimiste sur l'efficacité de l'injection contre le variant britannique. En revanche, la version sud-africaine qui touche en France 1 malade sur 100 serait plus résistante.
Sur le variant sud-africain, il y a une diminution de l'efficacité du vaccin d'environ 40%. On a affaire à un virus qui trouve une forme, finalement, d'échappement par rapport à la pression de sélection qu'on exerce en face.
Alors, faut-il un confinement aussi strict qu'au printemps ou adapté comme à l'automne ? Jean-François Delfraissy renvoie la décision aux politiques avec une certitude, sans nouvelles restrictions, dit-il. Une situation extrêmement difficile nous attend dès la mi-mars.
Roman, ok, merci. Le gouvernement attend d'être fixé sur les effets du couvre-feu généralisé. Toutes les possibilités sont sur la table. Hier, le nombre de patients hospitalisés a encore augmenté à 26 300, un millier de plus en une semaine, hausse également dans les services de réanimation.
Dans ce contexte, certains étudiants vont pouvoir retrouver les bancs de la fac à partir d'aujourd'hui.
Oui, les élèves de première année autorisés à reprendre les TD en demi-groupe, ça c'est pour le principe, sauf que beaucoup d'universités n'ont pas réussi à mettre en place le dispositif à temps. Grosse déception pour Marouane, étudiant à Créteil, revenu exprès du sud de la France.
J'ai eu aucune info de concrète. Pour le moment, j'ai pas de date précise de reprise de cours. Je sais juste que ça va reprendre incessamment sous peu, avec un format très particulier, en hybride, un certain nombre en classe, un certain nombre en ligne. Le fait de payer un billet de train avec une somme astronomique pour monter sur Paris et ne pas être sûr d'avoir du cours en présentiel, c'est assez dur, tant sur le plan scolaire que sur le plan financier, que sur le plan de la lassitude, quoi. Si j'ai que les cours en ligne, je ne vais pas continuer à payer mon loyer. Je vais quitter mon logement et je préfère revenir chez mes parents. Voilà.
Un témoignage d'un étudiant de première année recueilli par Diane Berger. Aujourd'hui s'ouvre le Forum économique mondial, non pas à Davos en Suisse, mais en ligne. Parallèlement, l'ONG Oxfam publie son rapport annuel sur les inégalités. Résultat, les 1000 personnes les plus riches au monde sortent pour l'instant indemnes de la pandémie, voire renforcées, alors que pour les personnes les plus pauvres, il faudra plus de 10 ans pour se relever.
7h06 sur Europe 1. Halte à l'obsolescence programmée. On va pouvoir réparer nos téléphones, nos frigos et autres tondeuses.
Et oui, c'est l'une des grandes nouveautés anti Gaspi cette année, l'indice de réparabilité obligatoire depuis le 1er janvier dernier pour certains produits électroniques ou électroménagers. Bonjour Olivier Samin.
Bonjour.
Alors on connaissait déjà les étiquettes énergie entre A et E pour savoir si notre lave-linge consomme plus ou moins. On va maintenant devoir s'habituer à ce nouvel indice. Comment il faut le décrypter, Olivier ?
Eh bien, avec une note qui va de 1 à 10, vous allez savoir si le lave-linge que vous vous apprêtez à acheter sera facilement réparable le jour où il tombera en panne. Réparable, ça commence par démontable. Dans les faits, c'est pas toujours simple.
Alors, vous voyez par exemple sur ce lave-linge, on a un problème de roulement.
Guy Pézacou est patron de Murphy, une entreprise qui s'est lancée dans cette activité il y a 2 ans.
Pour accéder au roulement aujourd'hui, il faudrait démonter l'ensemble du lave-linge, accéder à la cuve qu'on va ensuite ouvrir en deux pour pouvoir retirer le tambour métallique. Et ensuite, une fois qu'on a remonté l'appareil, il faut croiser les doigts pour faire en sorte que ça ne fuit pas.
Facilement démontable, d'accord, mais il faut aussi une documentation compréhensible et bien sûr des pièces disponibles à un prix abordable.
Afficher une note de réparabilité en soi, ça n'a pas l'air compliqué, sauf que ça suppose une remise en question complète en amont chez le fabricant.
Ben oui, les industriels n'ont d'ailleurs pas attendu l'entrée en vigueur de l'indice le 1er janvier pour lancer cette révolution en interne. Simon Barbeau est PDG de Brandt, ça fait déjà plusieurs mois que son groupe s'est mis en ordre de marche.
On a allongé la durée de disponibilité de nos pièces de 10 ans, 12 ans pour certains produits, à 14 ans à minima, voire 20 ans pour certains produits fabriqués en France. Cela se fait avec un coût, puisqu'il faut stocker plus longtemps les pièces, mais on accepte ce coût, puisque pour nous c'est vraiment important. Et puis l'autre exemple d'impact que l'indice de réparabilité a, c'est sur la conception des produits. Là aussi, on faisait déjà d'intégrer vraiment toutes les problématiques de réparabilité dans la conception, en utilisant beaucoup de vis et en minimisant les soudures, les clips qui sont difficiles à démonter. Mais on va continuer à le faire dans le futur. On travaille aujourd'hui, par exemple, sur tous les produits connectés qu'on peut réparer facilement avec des nouveaux logiciels qu'on peut implémenter pour pouvoir améliorer leur durée de vie et leur réparabilité.
Ouais, alors Olivier, d'accord, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que vraiment les consommateurs sont prêts à acheter des appareils plus facilement réparables, mais plus chers ?
Alors la réponse est oui, à en croire Fnac Darty qui sonde depuis 2 ans ses clients. Et même si ça remet en cause le modèle économique des distributeurs, dont l'intérêt, on le devine, est de vendre le plus souvent possible des produits neufs, Fnac Darty assume ce virage et annonce le recrutement de 500 techniciens supplémentaires d'ici 2 ans, sachant que le groupe en compte déjà 2000 et s'affiche comme le premier réparateur de France.
Merci beaucoup Olivier Samin. Et ce n'est pas fini parce qu'en 2024, l'indice de réparabilité sera complété ou remplacé par un indice de durabilité. Voilà, on n'a pas fini d'en reparler. C'est une concertation qui commence aujourd'hui et doit durer jusqu'en mai, le Beauvau de la sécurité. Il doit améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre, mais aussi les liens avec les Français après plusieurs affaires de violences policières.
La violence, mais celle des jeunes entre eux. Vous avez peut-être vu ces images particulièrement dures, filmées par des caméras de vidéosurveillance, dans lesquelles on voit Youri, un garçon de 15 ans, frappé très violemment par une dizaine d'autres adolescents.
Oui, il est d'ailleurs toujours dans un état très grave à l'hôpital et personne n'a été arrêté 10 jours après cette scène en plein cœur de Paris, dans le quartier de Beaugrenelle. Les enquêteurs sont sur la piste d'un règlement de compte entre bandes rivales. Un phénomène bien connu à Paris, Justin Morin, est suivi de près par les forces de l'ordre.
Oui, dans la capitale, une quinzaine de bandes sont identifiées par les services de police. Des bandes autour desquelles gravitent d'autres petits groupes, plus ou moins autonomes. Ce qui surprend, c'est que le quartier de Beaugrenelle où s'est déroulée l'agression n'est pas particulièrement connu pour être le repère d'une de ces bandes. Les affrontements ont plus souvent lieu dans l'Est parisien, les 10e, 19e et 20e arrondissements. Les rivalités restent la plupart du temps concentrées autour d'un quartier, entre deux cités voisines par exemple. Pour autant, le phénomène n'est pas nouveau, il n'est pas non plus en progression. En 2010, une cellule spéciale a été créée au sein de la police pour suivre ces bandes et tenter de prévenir les affrontements. Ce que constate cette brigade, et ça c'est un phénomène propre à aujourd'hui, c'est la disproportion entre l'origine de ces attaques et l'extrême violence qui en découle. Aujourd'hui, pour une simple provocation sur les réseaux sociaux, des mineurs n'hésitent plus à utiliser des armes blanches lors d'expéditions punitives contre leurs rivaux.
Justin Morin. Et le football, Lyon a croqué Saint-Étienne tout cru hier soir, victoire 5-0. L'OL n'a laissé aucune chance à son rival qui jouait à domicile. L'OL qui revient désormais à 2 points des leaders Paris et Lille.
Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et vous l'avez entendu dans le journal, justement, tout à l'heure, Corinne Boulou. Ce matin, c'est presque un multiplex qu'on va vous proposer. Le Vendée Globe, nous serons au cœur de la course au large du Portugal dans la dernière ligne droite. C'est à 7h40. Charlie Dalin, actuellement en tête. Et Yannick Bestaven, 5e. À quelques heures de l'arrivée, malgré le vent, il témoigne. Après plus de 77 jours de course, ce sont leurs dernières interviews avant l'arrivée. Le tête-à-tête Europe matin, 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouet. Bon réveil à tous. We'll be right back.